16h04, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-101. Louis Gauthier, chroniqueur international, qui est en studio avec
Québec.
Ben oui, qui arrive avec son beau petit bronzage. Là.
Ben oui, toujours à l'année.
C'est vrai que t'es bronzé à l'année, t'as un teint, mon chanceux.
Il était chez les cousins américains dans les dernières heures.
Hey, pour un gars qui a du sang irlandais, brun de main, c'est pas normal.
T'as du sang irlandais juste à la fête des Irlandais que t'as du sang?
Non.
Ah. Il y en a tellement, je veux dire, regardez vos origines. Si vous faites le test du Q-tip, en passant, si vous êtes criminel, paraît que... Ben, faites le test du Q-tip, t'sais, ça sera ma recommandation.
Si vous avez pas comment ça va, vous autres? Ça va, ça panique, là?
Si quoi?
Êtes-vous ça panique? 25 % d'augmentation?
Ouais, hier, c'était la grosse panique. Puis ça, à un moment donné, t'abandonnes. Tu sais, moi, j'ai lu le livre de Donald Trump, « The Art of the Deal ». OK. Mm-hmm. Et dans « The Art of the Deal », c'est clair que quand il arrive pour négocier quelque chose, il en rajoute tout le temps plus que le client demande pour faire peur, pour impressionner, pour créer comme « t'as peu, là, je pensais que j'étais en équilibre, mais là, je suis déséquilibré par ce que tu es en train de me dire là ». Puis là, ben, c'est comme si, à grandeur du Canada, c'était la panique générale. Puis des fois, là, je lisais les journaux ce matin, je me suis dit « j'suis-tu le seul là, qui ne stresse pas ?»
Mais Yannick, là, on va calmer le pompon à matin. Ben, à midi, là, parce que pour moi, c'est le matin un peu.
On va être deux.
Mais on va calmer le pompon. L'entente Canada-États-Unis-Mexique, la USMCA, va être rouverte en 2025 parce qu'elle est prévue d'être ouverte en 2025.
On est en 2024.
25%. Faut-il y croire? Pas du tout. Parce que c'est 400 milliards de dollars d'exportation que le Canada a avec les États-Unis. 192 milliards de dollars en échange énergétique.
On exporte 75 puis on importe 25?
Mm-hmm.
OK.
OK. Pensez-vous vraiment que Donald Trump va aller chercher 25 % d'augmentation tarifaire uniquement là, sur des questions économiques? La réponse est non, c'est impossible. Il y a des augmentations qui sont prévues selon l'entente de libre-échange qui entre le Canada et les États-Unis et le Mexique qui va être ouverte. C'est-à-dire, il y a des augmentations de prévues, on va dire des genres d'indexation, sur des produits normés qui sont cotés à la bourse. Exemple, le bois d'œuvre, tout ce qui est la gestion de l'offre, la Commission canadienne du blé, des choses comme ça, qui sont cotés à la bourse puis qui viennent jouer, où les taux tarifaires peuvent changer d'un pays à l'autre, tout dépendant de la demande qui est faite. C'est l'offre et de la demande, c'est coté à la bourse, c'est prévu selon l'entente. Mais à la base, pourquoi il est venu parler d'un 25 %? C'est pour faire peur. Parce que qu'est-ce qui est arrivé la semaine dernière lorsque j'en ai parlé dans ma chronique, puis que Donald Trump s'est réveillé un bon matin puis a dit « What the fuck? » C'est ça qu'il a dit. 36 postes frontaliers qui ferment le long de la frontière du Canada. Si ça ferme de ce côté ici, il y a des ajustements qui se font de l'autre côté également où il y a ces postes-là. Mais il y a deux postes qui font mal dans l'histoire. Cascade puis Novely en Colombie-Britannique.
Ça se trouve être plus près de Vancouver.
Ça se trouve être les deux routes de campagne qui traversent les montagnes vers Spokane dans l'État de Washington.
C'est là que le fentanyl passerait?
Parce que le fentanyl, en Amérique du Nord, sa porte d'entrée, là, les portes et les tonnes d'entrée du fentanyl,
c'est Vancouver.
Là, c'est le port de Vancouver. Ça rentre tout par là. Ces deux postes-là sont fermés, c'est dans les montagnes. Autre question qu'on ne parle pas dans les médias, c'est qu'on a une très grande frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est la plus grande frontière qu'on a dans le monde. Près de 80% de ce territoire-là est en territoire de Première Nation, autant du côté américain que du Canada. Puis ça, bien, il faut s'asseoir souvent pour aller jouer dans ces postes-là, pour aller vérifier qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas. Exemple, on l'a vu, là, au lac des Deux-Montagnes, sur le territoire de Kanasatake. On l'a vu à Tiendanaga, lorsqu'il y a eu le blocage ferroviaire. On a fait rentrer des armes dans le coin du port d'entrée de Johnston. Des armes qui ont été d'ailleurs retrouvées lors de la tuerie de Porcapic. Ça, je l'ai documenté assez souvent. Des armes qui venaient des États-Unis, de la région de... pas loin de Louisville, dans le Kentucky. Donc, c'est très, très dur à surveiller. Puis ça, ça a fait titiller Donald Trump. Parce que c'est pas juste la faute du Canada, c'est la faute des États-Unis. Parce que depuis 3 ans, là, qu'est-ce qui est arrivé au Canada? On a fait rentrer beaucoup de réfugiés. Lorsque la pandémie s'est terminée, on a eu beaucoup de gens qui sont rentrés. Aux États-Unis, Joe Biden a réussi à faire plier le Texas en faisant tomber ce qu'on appelle les razor fences, les fameuses clôtures de barbelés, là, avec, on voit des rouleaux de barbelés dans le haut de la clôture. Il a fait tomber ça. Et plus, voilà un mois, Glenn Abbott au Texas a réussi de gagner en cour d'appel fédéral le fait de remonter ces clôtures-là. Hier, Tom Hannon, qui est le nouveau tsar des frontières aux États-Unis, était justement au Texas avec Glenn Abbott pour parler de son plan de renvoi des illégaux. Puis il commence avec ceux qui ont un dossier, ceux qui sont rentrés vraiment, qui ont un dossier criminel, que c'est dangereux. Ils sont emprisonnés présentement. Puis ceux-là, il va les retourner. Donc, pourquoi Donald Trump fait peur à Justin Trudeau de cette façon-là ou fait peur au Canada? Parce que c'est pas qu'il n'aime pas Justin Trudeau. Justin Trudeau, en tant qu'individu, il en a rien à foutre. Mais mettez-vous à l'époque où il y avait son émission The Apprentice, Justin Trudeau n'aurait pas passé le test des préliminaires.
You're fired!
C'est sûr que non. Okay. C'est sûr que non. Mais tu es d'accord avec moi, c'est une grosse peur là, qu'il essaie de créer pour que les choses se passent. Puis actuellement, comme tu nous le dis, les choses se passent. C'est la réaction de François Legault qui semble stressé.
Bien, il est stressé. Puis tu lis, mettons, les affaires, les choses comme ça, tout ce qui est le monde un petit peu plus en affaires, justement. Il y a les deux points. Il y en a qui se disent on va peut-être arrêter d'acheter certains produits au Canada parce que ça va être devenu trop dispendieux. On va se rabattre sur des biens qui sont similaires, qui sont fabriqués aux États-Unis pour ce qui est importé là, du côté des États-Unis. Puis l'autre point, ce serait de continuer d'acheter des produits canadiens qui sont nichés, qui sont assez uniques. Ça, c'est quand même notre fierté. Mais on va refiler la taxe de 25 % ou encore de 20 ou de 15 ou de 10 ou de 5 aux consommateurs américains, à des particuliers, à des entreprises, ou encore là, accepter de réduire des marges bénéficiaires pour ne pas faire trop augmenter les prix. Fait que ça vient quand même revamper beaucoup, 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 beaucoup les affaires de certaines personnes pour être sûr d'être prêt si jamais ça se passe.
Pascal, le 25 % est fabulatoire. Il aurait pu dire 30 % il aurait pu dire 40 % il aurait pu dire 15 % Le chiffre n'a aucune importance.
Parce que j'ai dit 25, 20, 15, oui. Peu importe ce soit
peu
quoi.
Peu importe.
Mais
ça
pourquoi est-ce que les entrepreneurs, mettons, canadiens, pourraient avoir un impact? Parce que là, ce qui se jase aux États-Unis, c'est ces deux facettes-là là, en affaires.
Bien, ils ont peur parce qu'il va y avoir une réouverture de l'entente qui est prévue, là, contractuellement. Cette entente-là, elle est prévue d'être visitée en 2025. Ils vont négocier à peu près un an, deux ans, trois ans là-dessus pour arriver avec un nouveau texte, avec des nouvelles choses. On n'a pas besoin d'avoir peur parce que les Américains y auraient peur également. Le lait, le bois.
Le bois.
OK, surtout le bois. Ça va être le bois d'œuvre, là, ça va vraiment être une pierre angulaire pour les Américains parce que lui, de son côté, va vouloir protéger son marché. Protéger son marché, c'est quoi? D'acheter des biens à bon prix. Des biens, tu as des meubles. Des meubles, c'est fait avec quoi? Du bois. Puis le bois vient du Canada. Fait que pensez-vous que s'il s'en vient nous coller une fameuse augmentation de 25 % il n'y en aura pas une augmentation de 25 % sur le bois d'œuvre.
Non, c'est clair. Mais je pense aussi que le chiffre de 25, c'est un chiffre qui est fictif.
Bien, c'est ça.
Ça veut juste faire réagir. Mais tu sais, moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu ce que Pascal dit, tu sais, c'est la réaction des hommes et des femmes d'affaires qui, là, sont un peu stressés. Je me dis, si eux autres sont stressés, j'ai-tu des raisons de croire, moi, qu'ils n'ont pas à l'être, tu sais?
Le seul stress qu'il y a eu hier, qui est un stress tout à fait normal, c'est la réaction des marchés boursiers. Parce qu'une annonce de même, ça a fait bouger. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est souvent des gens, des épargnants, qui ont sorti leur argent pour aller les mettre dans des portefeuilles moins performants, mais plus sécuritaires. Donc, ça a créé une baisse des marchés. C'est ce qui est arrivé là, depuis lundi avec cette annonce-là. Mais ça va se restabiliser. On a vu le dollar qui est venu jouer. Le dollar, c'est drôle, hein? Il y a la même baisse qu'il y a eu à la période du Thanksgiving l'an passé puis l'autre année d'avant.
Exact.
C'est la même chose. Ça, personne n'en parle.
Mais non, mais les gens disent, il y a un impact, mais si tu regardes les autres années antérieures, ça arrive tout le temps dans ce temps-ci de l'année.
Fait que le problème qu'il y a à régler, c'est le problème de la sécurité aux frontières parce que c'était le plat bonbon qui est ouvert depuis 3 ans et demi.
Okay.
Puis là, il est en train de le refermer. Donc, qu'est-ce qui est en train de se préparer? À la fin de février et mars 2025, il y a l'opération Jackmel, qui va impliquer le DEA, le Homeland, la GRC, le FBI, puis la PFM, qui se trouve être la police fédérale mexicaine. On va faire une opération navale et terrestre. Puis Jackmel, ça se trouve être le fameux port qu'il y a à l'est de Port-au-Prince, à Haïti, qui, à l'époque, au 19e siècle, était un ramassis de bateaux et de pirates dans ce coin-là des Caraïbes. Pourquoi? Parce que c'est un port également, puis c'est le passage de Caillé qu'on appelle, qui est connu depuis une cinquantaine d'années, c'est le nom qui a été donné. C'est ce passage qu'il y a entre Cuba, Haïti, puis les côtes nicaraguayennes et du Honduras. Et c'est par là qu'on fait rentrer beaucoup de gens, d'immigrants, beaucoup d'armes, beaucoup de drogue également qui vient de l'Amérique du Sud. Puis là, bien, on va éradiquer, puis c'est en train de se préparer. C'est pas la première fois qu'il y a une mission comme ça, mais la mission, l'opération dont je vous parle, c'est une opération qui existait déjà sur papier, puis là, on est en train de la mettre, d'y prendre forme avec une participation de tous les pays. Puis ça, bien, ça fait partie des ententes tripartites de sécurité entre nos frontières. Puis il ne faut pas penser que c'est politique, juste cette histoire-là. On est, tu sais, les gens ne sont pas fous à temps plein, là, qui nous dirigent puis qui sécurisent nos frontières. Mais c'est sûr qu'au Canada, on a laissé aller ça parce qu'on a un premier ministre qui n'y croit pas. Le seul danger qui guette le Canada, puis je n'ai pas peur de le dire, le seul danger qui guette le Canada, c'est qu'on a parlé de Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas une Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre froide qu'on est en train de vivre. Mais s'il y avait une Troisième Guerre mondiale déclarée, ça vient suspendre, ça vient mettre en œuvre la loi des mesures de guerre dans tous les pays, dont le Canada. Ça vient suspendre tous les pouvoirs législatifs. Donc, si ça arrive en 2025, il n'y a pas d'élection fédérale, puis c'est Justin Trudeau qui demeure premier ministre.
Bon, ça, c'est un danger.
Mais ça semble assez rapide, en fait. Là. Ça peut être aussi rapide que ça, parce que...
Oui.
Tu as l'impression que ça peut être aussi rapide.
En 1942, Franklin D. Roosevelt a eu un troisième mandat, justement, lorsque Pearl Harbor était attaqué. Il y avait des élections de prévues. Puis, ça a été suspendu. Il y a eu un troisième mandat. Il est mort pendant son troisième mandat. Puis c'est Harry Truman, le vice-président, qui a fait le lancement de la bombe. Ça arrive. C'est prévu. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'une mesure de guerre est appliquée, la loi des mesures de guerre est appliquée dans un pays, ça suspend tout pouvoir législatif.
All right. Hey, bataille du plateau de Golan. Plateau de Golan, de mémoire, c'est la Syrie sur le plateau de Golan, puis t'as Israël qui est sur le plateau de Golan.
Israël, une partie du sud Liban, tu sais, c'est pas mal large, là. Bon, pourquoi que je dis que la bataille est finie? Bien, c'est parce que la semaine dernière, on a annoncé que un cessez-le-feu allait être nommé d'ici une semaine ou deux avec le Liban, ce qui est arrivé hier. Maintenant, celle qui va être annoncée dans les deux prochaines semaines, c'est celle avec Gaza, parce qu'il n'y a plus rien à faire péter sa bande de Gaza. C'est en train
tout
de se régler. Là, on est en train de vérifier, parce que ce dossier-là, c'est l'Arabie saoudite qui est en train de régler ça avec l'Iran pour s'assurer qu'il n'y aura pas de représailles et tout ça. Mais il y a un cessez-le-feu qui s'en vient à la bande de Gaza. C'est la prochaine étape d'ici deux semaines qui va arriver. Puis ce dossier-là devrait être réglé, du moins pour un bout. Parce que dans les propositions d'entente, il y a plusieurs choses, mais il y a une chose qui m'a fait rire, c'est que les pays gardent quand même le droit de se défendre l'un contre l'autre.
Ben, c'est pas fou, là.
Non, c'est pas fou, mais ça me fait rire. Tu sais, ça lève. C'est pas rire, si t'as la main sur la switch pour dire si un matin, ça dit. Ouais.
Mais c'est la meilleure façon de garder.
Il est venu faire pipi sur ma ligne.
C'est la meilleure façon pour un politicien de garder la face, là.
Ben oui, c'est sûr. Mais.
S'ils nous attaquent, on est là.
Ouais.
Mais nous, on les attaquera pas.
Alors, le dernier dossier qui reste à régler, c'est le fameux dossier russo-ukrainien. Puis ça, j'ai comme l'impression que c'est un des premiers dossiers qui va se régler le 21 janvier au matin.
Oui, j'ai l'impression, moi, qu'ils vont essayer de régler ça avant que Trump reste en place. Avant que Trump arrive dans la place, j'ai l'impression qu'ils vont le régler avant.
Mais
ça pourrait-tu se faire?
Ça va se faire parce que l'administration Biden essaie de sauver la place. Pour la première fois de l'histoire, un président américain est sous la barre des 20 % d'impopularité aux États-Unis. Et le président élu, le président désigné, atteint des scores au-dessus de 70 %. Je dois te dire que depuis deux semaines, c'est pas mal l'équipe de transition qui dirige ce qui se passe à Washington. On l'a vu hier à la frontière, on le voit avec les annonces qui sont faites. La seule chose que Joe Biden a fait depuis une semaine, c'était de gracier une dinde pour la Thanksgiving.
Il l'a gracié.
Elle ne se retrouvera pas dans les assiettes cette année.
Non. Il y en a deux même qui ont été grassés. Puis
ben oui.
J'en parlais à Yannick cette semaine en début d'émission. On avait suivi ça, nous en riant. On dirait qu'il était assez calmant. Là. La dinde était bien relax, sur le perchoir, en train de regarder tout le monde pendant qu'il y avait l'allocution. Ouais. Joe Biden avait ses lunettes de soleil. Il avait de quoi de bizarre là-dedans. Là.
Pour moi, elle est épugée dans le plat de bonbons sur le bureau à Joe dans la Maison Blanche.
Tu penses? Je sais pas, mais je regardais son allocution, puis c'est de plus en plus difficile pour lui.
Laden ou Joe?
Les Joe. Okay. Les deux yeux fermés. Tu vois qu'il cherche sa vie. Là. Ça va lui faire du bien de retrouver une vie. C'est parce qu'il va être président jusqu'à sa mort, mais ça va lui faire du bien de retrouver une vie un peu plus ordinaire que celle qu'il
a eue. Je dois vous dire que l'agenda du président actuel est vraiment allégé. Ça se passe très, très bien. Il fait des petites activités de sortie là, protocolaire, pas trop compliquées. Mais quand il arrive une transition présidentielle, ça prend du temps. On a vu à quelle rapidité Donald Trump a mis son équipe administrative en place, puis elle agit. Et c'est vraiment ce pouvoir-là qui prend forme aux États-Unis, surtout qu'il y a le plein contrôle de la Chambre et du Sénat. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'inquiéter. Comme c'était fait depuis... comment je pourrais dire ça? Ce qui est arrivé la semaine dernière en Ukraine, pour moi, là, c'est une liquidation d'inventaire de missiles qui est en train de se faire pour maintenir la guerre froide. Ce n'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre froide. Une guerre froide, là, c'est pour intimider. C'est ce qui est fait. Ça a fait bouger les gens. Ça a fait interroger. Les gens se sont interrogés. On va-tu tomber en guerre? On va-tu tomber en guerre? On ne tombera pas en guerre. Il n'y a pas personne d'assez imbécile sur la planète pour lever la switch de la bombe nucléaire. Ça, c'est sûr et certain. Je vous l'ai dit la semaine dernière, les Chinois vont intervenir auprès de la Russie si ça vient bouger. C'est que c'est des commentaires. Le terrorisme fonctionne parce que tu n'entends pas parler. Quand tu entends parler avant ce qui va se passer, c'est une menace. Mm-hmm. On va te menacer. Mon père est plus fort que le tien. C'est carrément une histoire de la sorte qui se passe présentement dans le monde. Donc, c'est une guerre froide.
Ouais. Hey, pour Biden, là, vers, mettons, la mi-janvier, il va être remercié, il va demeurer président jusqu'à sa mort, comme on l'a dit. C'est quoi les fonctions d'un président qui est plus en service? Parce que là, Jimmy Carter, bon, il est rendu trop vieux, là, on le voit, là. Mais Jimmy Carter qui a 100 ans, quand même. Il est né en 1924, 1er octobre 1924. Puis, c'est quoi? C'est une fonction seulement? Il est accompagné du Secret Service, puis il se promène, puis il serre des mains? C'est quoi?
Oui, ça arrive. Il va écrire un livre.
Ouais.
Il va peut-être... un président, comme Jimmy Carter, c'est arrivé à l'époque, il était un émissaire spécial de la Maison-Blanche pour faire des règlements internationaux,
après
pour faire
ses
des négociations, après les mandats. Bill Clinton en a fait un peu. Barack Obama... Il se tient tranquille, il n'en a pas vraiment fait. Il a fait des conférences. Ils font beaucoup, les avocats, pas les avocats, mais les présidents qui sont en forme vont faire énormément de conférences parce qu'ils font beaucoup d'argent lorsqu'ils font ça. Ils sont invités. Même les premières dames, on l'a vu avec Michelle Obama lorsqu'il est venu à Montréal. Barack Obama, c'est la même chose. Hillary Clinton l'a fait.
C'est quand même des gros cachets, les faire venir. C'est million. Là,
ouais, oui, oui, ah, mais c'est même plus que ça, des fois. Là. Ça peut jouer pas loin du 2 millions, puis tout en US.
Pascal? Les gens, ils paieraient-tu pour aller te voir au Centre Bell, mettons, à Montréal?
Non.
1 million?
Mais non.
Dans 20 ans, ça va venir. T'es une grande dame de la radio.
Ben oui!
Tu vas écrire des livres sur ta vie.
Hey, mais c'est du cash.
Comment passer tes journées avec Yannick Marceau?
Ouais. C'est du cash. Là. Tu t'assois dans une chaise, il y a quelqu'un qui te pose des questions, tu réponds, tu repars, puis t'as 1 million, 2 millions dans tes poches.
Mais ça veut dire que t'as fait quelque chose avant, là, normalement. Ouais. Que ce soit quelque chose de grand ou quelque chose qui attire l'attention, t'as même basé ta culture financière puis économique sur la visibilité que t'as eue.
Oui, mais Joe Biden, il a marqué l'histoire de son vivant parce que c'est quand même... C'est Joe Biden, l'individu.
Faut pas juste remarquer la fin de ce qui se passe.
Non, mais il faut regarder sa vie, surtout sa vie personnelle. OK? Il est rentré au Sénat très, très jeune. Il a battu un républicain dans le Maryland qui était là depuis Methuselah. Puis au moment où il a fait son entrée, il a perdu sa femme et sa fille.
C'est un accident d'auto.
Dans un accident d'auto. Ouais. Puis là, il a refait sa vie. C'est quand même 44 années de politique américaine dans sa vie. Dans son prime, c'est un cowboy. Là. Je te dirais que c'était peut-être le plus centriste et démocrate. Là. C'était comme un genre de Jean Chrétien là, américain. Là,
mais non, demain, pour moi, que ce n'est pas un président américain qui va avoir marqué l'histoire des États-Unis.
Je l'ai dit, c'était la première fois dans l'histoire, en 2021, en janvier, qu'on venait d'élire un président honoris causa.
Voilà. C'est un gars aussi qui a eu beaucoup de la difficulté à prendre la parole, le discours. Il y a eu des profs jeunes, ses parents pensaient que c'était un handicap. Il y a eu des difficultés qu'il a surmontées. Pour certains, c'est rien. Pour d'autres, quand même, se rendre en politique au niveau où il s'est rendu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le parcours est intéressant. T'sais.
Oui, le parcours est intéressant. La personnalité, elle est intéressante. Surtout les obstacles qu'il a eu à surmonter tout au long de sa vie. Les biographies qui vont être écrites à son sujet seront très intéressantes à lire. Puis j'invite les auditeurs à aller lire. C'est important de lire les... Tu sais, tu parlais du livre de Donald Trump qui est sorti, je pense, en 2004 de mémoire. Là.
Le The Art of Deal, moi, je l'ai eu. La version que j'ai, c'est, me semble, c'est fin 80 chez nous.
Bon, OK. Puis, alors, The Art of the Deal. Tu sais, je lis beaucoup de livres, puis même des... Pour comprendre l'incompris, c'est important de lire puis se documenter.
87.
Bon, donc il faut comprendre, tu sais, il faut aller les lire, là. Même si on n'est pas d'accord avec l'idéologie, il faut aller le lire, il faut aller s'informer. Puis lorsqu'il sort des nouvelles, puis c'est ce que je reproche aux médias traditionnels, c'est les chiffres que j'ai là, c'est documenté, que j'ai donné, c'est documenté. Pourquoi on a laissé la panique monter dès lundi matin, puis que ça traîne depuis 72 heures, puis qu'on s'inquiète? Alors que c'est pratiquement... C'est impossible que ça arrive.
Que les médias montent la patente en épingle, je le comprends, parce que la peur, ça fait vendre. Puis là, les gens, ah ouais, 25 % c'est gros, puis là, ils vont lire les articles. Cette portion-là, je la comprends. Puis je suis entièrement d'accord avec
Mais toi. Mais on a un devoir d'informer.
Mais un François Legault qui dirait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, attendez un peu, là, Donald Trump a toujours un peu exagéré. Oui, on va regarder ce qu'on peut faire. Oui, ça se peut qu'il y ait des augmentations, mais on peut-tu regarder si c'est vrai ce qu'il dit pour le fentanyl dans le secteur de Vancouver? Est-ce que Justin Trudeau pourrait faire quelque chose?
C'est sûr qu'ils sont conscients de ça, par exemple.
Oui, mais juste le dire. Parce que là, de voir que le premier ministre est comme un peu en panique, je trouve ça weird.
En même temps, il se base sur ce que Donald Trump a dit. Fait, c'est ses mots
mais
à
non.
lui.
C'est, je veux dire, 25 les amis, ça vient de nulle part.
Ai-je besoin de vous rappeler que le premier mandat de la coalition Avenir Québec a été gagné sur la peur, surtout son deuxième mandat.
C'est ça.
C'était sur la peur. Ils font du millage avec ça. C'est pour ça que François Legault fait peur au monde, parce qu'il sait qu'il gagne des votes avec ça. Il a gagné une élection de cette façon-là.
Ah, oh, je te dis, on s'en sortira jamais. Louis Gauthier, chroniqueur international, merci. Tu retournes-tu en Floride bientôt, là, avec ton petit bronzage qui nous énerve?
Oui, pour mes vacances.
Pour tes vacances?
Oui. Je suis allé chercher mon tuxedo.
Tuxedo?
Bon, j'en ai pas juste un, là.
Tu vas y donner une belle soirée ce soir à madame?
Ah, je défonce l'année dans les Caraïbes sur une croisière. Quand vous aurez mon âge, vous pourrez vous permettre ça, les jeunes.
Parle-moi de la misère humaine, toi.
Hey, the king is out of the building.
T'aimes-tu ça, les croisières?
Yes!
Ouais. Moi, au début, je ne l'avais jamais fait. Mm-hmm. Puis là, j'étais avec ma blonde de l'époque, puis elle disait, on va faire une croisière, puis j'étais pas ouvert à ça. Finalement, elle avait de meilleurs arguments, puis elle m'a convaincu. Puis j'ai vraiment trippé avec mes deux gars, là. J'ai halluciné dans une croisière, puis après ça, l'an passé, j'en ai fait une autre. Puis j'ai vraiment trippé aussi. C'est pas ce que les gens peuvent penser, une croisière. C'est pas des gens en fin de vie.
C'est important d'écouter nos conjointes.
Oui.
Oui, parce que moi, regarde, mon épouse, elle voulait installer les déclarations de Noël, là, deux semaines. Puis je dis, ben non, il y a trop de bonheur. Ça fait qu'on a eu un compromis. Ils sont déjà installés. Bonne journée, les amis.
Salut, merci. Bye. Fall Out Boy, Sugar, We're Going Down sur Boulevard.